Assieds-toi, Clotilde. » Les mots de Cassanou la tirèrent de ses pensées. Plus tard, elle repenserait plus tard aux questions posées par Hermann Schreber. Son grand-père semblait mieux respirer. Il lui indiqua, d'un geste lent, de s'installer sur la pierre la plus proche de lui. Tout en bas, plein nord, la citadelle de Calvi semblait d'une taille ridicule face à la ville dont l'urbanisation rongeait les pentes de la Balagne. Clotilde n'avait pas eu cette impression il y a 27 ans. La voix de Papé ne trembla pas. Il tourna le cou et leva les yeux vers l'immense poutre à laquelle il était adossé. « Tu te souviens, ma petite fille, en 1989, la précédente croix. Le bois était pourri, les clous rouillés, elles menaçaient de s'écrouler sur nous. Ils en ont planté une neuve depuis, qui n'a pas tenu bien longtemps. Puis encore une autre, celle-ci, il y a moins de 3 ans. Les Autrichiens ont de la suite dans les idées. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici ? Pour ça. » Son regard embrassa le panorama. Elle reconnut le crocodile endormi. La côte, de l'île Rousse à Calvi, de la Revelata à Galeria, ressemblait à un ourlet de fil blanc. Une fine dentelle, un trait pur dessiné d'une main sûre. Elle savait pourtant que ce n'était qu'une illusion, une question d'échelle. La côte était en réalité déchiquetée, et les rochers blancs se jetaient dans la mer, pointus et acérés, comme 1000 couteaux aiguisés. « Pour ça ?» répéta Clotilde. « Pour ça. Cette vue, ce paysage. Pour le privilège de le contempler une dernière fois, avec toi. Tu donneras à notre petite réunion de famille le nom que tu veux. Une bénédiction, une transmission. Tu es notre seule héritière, Clotilde, en ligne directe. Tout ça, son bras décrivit un large cercle. Tout ça, un jour, ce sera à toi. Clotilde ne répondit pas. Un tel héritage lui semblait tellement irréel, tellement lointain, tellement étranger à ce qu'elle vivait et aux urgences qui la pressaient. Elle hésita à provoquer d'emblée son grand-père, à le questionner à propos de la direction sabotée de la Fuego, mais elle préféra s'en tenir à son plan. « Vérifiez d'abord, accusez ensuite, comme toute bonne avocate. Vérifiez si Cervone Spinello racontait la vérité. Accusez seulement ensuite son frère Nicolas. » Et elle avait besoin de Cassanou pour cela. Elle prit un ton d'infirmière en colère en évaluant les 700 mètres de dénivelé.
« Tu trouves cela malin de te lancer dans ce genre d'exploit à ton âge ?»«
Tu parles d'un exploit. J'ai lu qu'un Japonais avait gravi l'Everest à plus de 80 ans, et que son père, avant lui, avait descendu le Mont Blanc à ski à 99 ans. Alors, monter en haut de cette montagne à chèvre... »
Il avait élevé le ton. Cassanou donnait l'impression d'être étonnamment en forme, mais il était sans doute plus éprouvé qu'il ne voulait le montrer. Il toussa longuement, puis continua.
« La première fois que je suis monté ici, c'était en 1935. » Puis à partir de 1939, je faisais l'ascension plusieurs fois par jour pour aider les partisans. Je leur portais de la nourriture, des armes, des munitions. On a été les premiers à foutre dehors les nazis, ici en Corse, bien avant le débarquement de Normandie, et sans l'aide des Américains. Le premier département français libéré. Mais ça, les livres d'histoire l'ont oublié. Toi, ma petite fille, la première fois que tu es grimpée jusqu'ici, tu avais 15 ans. Tu te souviens ? Évidemment, tu te souviens. C'était juste avant.
Papé ne parvint pas à achever sa phrase. Bien entendu, Clotilde se souvenait. Les jumelles autour de son cou, le casse-croûte au brochu, le soleil qui se levait, les faucons pèlerins qui passaient dans le ciel. Cassanou lui semblait déjà âgé alors. Il était pourtant indestructible, plus indestructible que les croix de Dieu. Elle détailla le bois verni, déjà fondu, les clous de fer, déjà rouillés. Son grand-père survivrait encore à celle-là. Peut-être.
Elisabetta est morte d'inquiétude, fit-elle.
Cela fait 60 ans qu'elle est morte d'inquiétude.
Elle sourit.
J'ai des questions à te poser.
Je me doute.
Clotilde promena son regard 700 mètres plus bas. La côte n'était qu'une succession de péninsules, de tentacules gris couverts de mousse qu'un dieu semblait avoir fait pousser pour multiplier les criques secrètes, les eaux de mouillage, les sentiers de douaniers. Un dieu corrompu qui aurait compris le profit qu'on pourrait un jour en tirer. Avant qu'elle ne se lance, les yeux de Clotilde s'immobilisèrent plein est, vers la mer. On distinguait les bungalows du camping des Euproctes, les fondations de la marina Roquemaré, l'ombre de la paillote tropicaliste sur la plage de l'Ochelucha. La dernière fois qu'on se tenait là tous les deux, il n'y avait rien qu'à Sanou. Rien que des oliviers pour planter les tentes dessous, un sentier de terre pour descendre à la plage, une barque de pêcheurs amarrés et dans la baie de la Revelata, des dauphins. Comment as-tu pu laisser se développer le trafic de Cervone et Spinello? Son ambition, son béton. Il raconte à tout le monde que le tout-puissant Idrissi lui mange dans la main. Cassano ne se vexa pas.
C'est compliqué, ma petite, c'est compliqué. Tout a changé depuis des années, beaucoup changé. Mais on peut le résumer en un mot, en 4 lettres. Le fric, Clotilde. Le fric.
Je ne te crois pas, tu te fous de l'argent. Alors trouve autre chose. Trouve autre chose pour m'expliquer pourquoi la paillote de Cervone n'a pas brûlé. Pourquoi les fondations de son hôtel n'ont pas explosé.
Visiblement, il ne trouvait rien. Il semblait avoir un peu de mal à respirer. Clotilde vérifia que son téléphone passait au sommet, qu'elle n'avait pas d'autres messages et surtout qu'elle pourrait composer le 15 en urgence. De Calvi, un hélicoptère devait mettre moins de 5 minutes à parvenir jusqu'ici. Sauver les randonneurs perdus en montagne, c'était le quotidien des secouristes corses. Rassurée, elle continua à provoquer son grand-père. Comme s'il ne s'était pas déroulé 27 ans, mais 27 secondes depuis qu'elle avait eu cette même conversation. Ici même, avec lui.
Cassano, pourquoi as-tu préféré les projets de cette ordure de Cervone au sanctuaire écologique de Natal et Angeli? Tu m'avais presque promis. Tu m'avais presque dit oui. Pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que Natal était amoureux de ma mère? Parce qu'en approchant de la femme de ton fils, il touchait à l'honneur de la famille?
L'honneur, Clotilde, c'est ce qui reste quand on a tout perdu.
Clotilde observa l'immense terrain devant eux, les 80 hectares de terrain appartenant aux Idrissi.
Tout perdu? Il y a de la marge, non? Mais tu ne m'as pas répondu, Cassano. Chez les Idrissi, une femme ne trompe pas son mari, c'est bien ça? Interdit. Un homme, par contre.
Elle s'attendait à ce que Cassano réagisse. Rien. Il attendait.
Ok. Papé, si tu veux vraiment que je mette un grand coup de pied dans les secrets de famille. Je ne suis plus une petite fille, Cassano. Je sais que mon père trompait ma mère. Tout le monde était au courant. Tous les habitants du coin plaisantaient avec ça. Alors pourquoi en vouloir à Natal et Palma?
Enfin, le vieillard réagit.
Le problème est ailleurs, Clotilde. Il est bien antérieur à tout ça, bien antérieur à ta naissance. Le problème est que ton père n'aurait jamais dû épouser ta mère.
On y était. 27 ans après, on y était.
Parce qu'elle n'était pas corse?
Non. Parce que ton père était déjà promis à une autre fille. Avant qu'il rencontre ta mère, qu'il tombe amoureux d'elle, qu'il abandonne tout pour elle.
Une fille corse, bien entendu.
Elle s'appelait Salomé. Elle était de notre clan, quasiment de notre famille. Elle lui était fidèle. Elle lui serait restée fidèle. Paul serait resté fidèle à son île. Ta mère n'était pas la femme qu'il lui fallait. Le voilà, Clotilde. Le gâchis. Ta mère n'était pas la femme que tu croyais.
Les mots flottaient dans le silence. Le vent semblait les avoir portés pour qu'ils s'accrochent au sommet. Les mots de Speranza dans le cimetière de Marconi.
Crois-moi, des femmes sont capables de ça. Ta mère a ensorcelé votre père. Elle l'a emporté dans ses filets, loin, loin de tous ceux qui l'aimaient.
Il se mêlait au rire des hommes au bar des Euproctes. Quand elle avait 15 ans, et qu'elle avait appris l'infidélité de son père.
Paul aurait dû vivre ici si ta mère ne l'avait pas tué. Vivre ici, tu m'entends? Vivre ici, pas revenir pour y mourir. »
Cassano toussa, bruyamment, comme autant de coups de canon qui dissipèrent les voix du passé.
« C'est aussi simple que ça, ma petite fille. Ton père n'aurait pas dû épouser ta mère. Il l'a regretté. On savait tous qu'il le regretterait, mais il était trop tard alors. »
« Trop tard, pourquoi ?»
Il fixa Clotilde d'un air désolé.
« Vous étiez nés, toi et Nicolas. »
« Et alors ?»
Il ferma les yeux une longue seconde, comme s'il hésitait à en dire davantage, puis se décida.
« Et alors ?» Palma était entré dans le cercle, comme un ver dans le fruit. Plus personne alors ne pouvait éviter le drame.
Le drame ? Papé parlait-il de l'accident ? D'abord on accusait son frère, puis c'était le tour de sa mère.
« Ne cherche pas à en savoir davantage, » ajouta Cassano. « Je suis désolée, Clotilde. Malgré le sang, malgré la terre dont tu hériteras, tu ne seras jamais de notre clan. Il faut vivre ici pour ça. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, des choses que tu ne peux pas apprendre. »
Clotilde allait protester, mais Cassano lui fit signe de le laisser parler.
« Vois-tu, ma petite fille, là, maintenant, tu me regardes avec cet air de pitié, comme si j'allais mourir au pied de cette croix. Personne ici, personne dans le clan ne me regarde avec pitié. Personne ne m'a jamais appelé Papé. »
Elle prenait conscience qu'elle ne tirerait rien de plus de son grand-père. Aucun aveu, aucune confession. Peu importait, elle s'y attendait. Ce n'était pas ce qu'elle était venue chercher.
« Moi non plus, si tu as remarqué, je ne t'appelle plus Papé. La petite fille qui t'appelait Papé est morte, Cassano, le 23 août 1989, dans les rochers de la Petracoda. Sa famille est morte, son enfance est morte. Tout est mort ce jour-là. On a au moins un point commun, Cassano. On a tous les deux perdu nos illusions ce soir-là. Alors si je suis montée te voir, ce n'est pas pour que tu brises l'omerta, et encore moins par pitié. »
Elle appuya sur ce dernier mot.
« J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me rendes un service. »
L'œil sombre du vieillard s'était à nouveau allumé.
« Lequel ?»«
Un service que seul pourrait me rendre quelqu'un qui ne craint pas la police. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de faire sa propre loi. »«
Qu'est-ce qui te fait croire ça ?»«
Je ne suis peut-être pas de votre clan, mais il me semble tout de même évident que vous n'aimez pas trop la justice officielle. » Que vous ne faites pas trop confiance au préfet, au notaire, aux gendarmes ? »
Ça lui arracha un sourire.
« J'ai essayé, comme j'ai pu, au cours de ma vie, de réparer les injustices. »
Elle posa un doigt sur sa bouche.
« Chut !
Tu te souviens des mots que tu avais prononcés ici il y a 27 ans ? Une phrase de rien du tout, moins de 20 mots. Tu ne lâches jamais, ma petite fille ? Tu ferais une bonne avocate ?
Je le suis devenue au bout du compte, grâce à ton conseil peut-être.
Alors tu te confesseras le jour où tu auras besoin de mes compétences professionnelles. Mais en attendant, je ne veux rien savoir sur les marchands de béton qui ont coulé à pic, sur les villas qui partent en fumée, sur ce cadavre non identifié qu'on a retrouvé dans la baie de Crovani, d'après la radio ce matin, sur les camions qui ont sauté sur la route d'Algajola avec leur cargaison. Même si je trouve dommage que Cervone Spinello n'ait pas été sur la liste.
Ça lui arracha un nouveau sourire. Il reprenait ses forces. Peut-être même que Papé pourrait éviter le retour en hélico. Elle précisa, confiante.
Ça n'a rien à voir avec tout ça. J'ai besoin de toi pour une intervention. Une intervention pas tout à fait légale, potentiellement dangereuse. J'ai besoin que tu fasses appel à une poignée d'hommes déterminés, armés.
Il l'observa avec attention, étonné. Peut-être même révisait-il son jugement. Que dans les veines de sa petite fille coulait un peu de son sang. Qu'elle pourrait même glisser un doigt de pied au sein de son clan.
Armée ? Je suis un vieillard, je n'ai plus aucune influence. Qui veux-tu que...
Taratata !
Clotilde lui tendit son téléphone.
Je suis certaine que tu n'as qu'un ou deux coups de téléphone à passer. Que ça se bouscule au portillon, les corsillons pour ce genre de mission.
Tout dépend de la mission.
Neutraliser un gardien. Peut-être deux,
un gardien musclé, mais a priori pas armé.
Il ferma les yeux, visualisa la scène.
Ça se passerait où ?
Ça va te rappeler des souvenirs.
Elle scruta l'ombre qui recouvrait la plage, 700 mètres plus bas.
Payotte le Tropicaliste, plage de l'Ochelucha. Je ne suis pas sûre que tu aies prêté attention aux affiches, mais je voudrais pouvoir approcher Maria Chiara Giordano.
Cette pute ?
Si, visiblement il avait prêté attention aux affiches.
Qu'est-ce que tu as à lui demander ?
Elle répondit sèchement, façon couperet. La vérité. La vérité sur la mort de ton fils, de mon père, de ma mère et de mon frère. Elle seule la connaît. Une vérité que même toi tu ignores. Le choc cette fois frappa frontalement Cassano, davantage que Clotilde ne l'aurait imaginé. Il sembla saisi de vertige, cligna les yeux, souffla, toussa, glissa lentement, membres écartés, comme s'il voulait mourir sur ce sommet, les bras en croix pour défier celle des Autrichiens. Clotilde lui prit la main, lui parla.
« Ça va, papé, ça va ?»
Hésita à appeler les secours, le fit boire.
« Doucement, papé, doucement !»
Calma ses jambes qui tremblaient, calma son cœur qui s'emballait.
« C'est bien, papé, c'est bien !»
Serra ses 10 doigts dans les 10 siens, comme si sa vie était un oiseau prêt à s'envoler caché dans le creux de sa main. Cela dura quelques minutes avant que Cassano ne reprenne pleinement conscience, comme s'il avait analysé toutes les données du problème dans son cerveau mal ventilé, qu'il ne respire à nouveau normalement, qu'il ne se redresse, qu'il ne saisisse sa canne.
« Aide-moi à me relever, Clotilde. On en a bien pour une heure à redescendre. Tu me prêteras ton téléphone sur le chemin, pour tes gars armés et cagoulés. Je devrais pouvoir te trouver ça. »